Le journal est présenté par Martin Bartoletti.
Bonsoir. Un acte 5 est peut-être un rideau sur la mobilisation des gilets jaunes, des rassemblements plus clairsemés et plus calmes aussi, malgré quelques tensions par moment autour des Champs-Élysées, où nous serons au début de ce journal. La convergence des luttes prend forme à Marseille ou encore Toulouse. Dans la ville rose, les rangs des gilets jaunes ont grossi grâce à la présence de la CGT. Comment expliquer cette baisse de la mobilisation? On a posé la question à Jean-Marie Pernaud, ce politologue nous explique tout dans un instant. Et puis l'Australie s'attire la colère de l'autorité palestinienne. La grande île du Pacifique a reconnu aujourd'hui Jérusalem-Ouest comme capitale d'Israël. Le Premier ministre australien oppose une condition au déménagement de son ambassade. Il faut qu'un accord de paix soit trouvé entre l'État hébreu et les Palestiniens. Les gilets jaunes perdent des couleurs. Mobilisation en forte baisse au cinquième acte. 33 500 personnes réunies dans tout le pays à la mi-journée contre le double la semaine dernière. À Paris, près de 3 000 personnes se sont rassemblées aux abords des Champs-Élysées, mais aussi devant l'Opéra. Une manifestation parisienne plus calme, Olivia Cohen, mais avec quelques moments de tension.
En fin d'après-midi, il y a eu quelques blessés légers. Un homme a reçu un tir de flashball au niveau du ventre. Un autre a reçu un projectile sur le front. Noam lui a porté secours. Il est dépité par ces violences.
Même quand on vient les mains vides, parce qu'on est contrôlé à l'entrée, bien sûr, des champs, bah voilà, on se mange des projectiles. On se mange surtout des fumées, de gaz.
Ils sont moins nombreux, mais ceux qui sont venus sont déterminés. Sarah, 19 ans, est venue avec sa jeune sœur de 14 ans.
Moi et ma sœur, on est jeunes et on voit bien que l'avenir, c'est mal parti. On va pas travailler toute notre vie pour que dalle. Donc voilà, nos parents, ils se crèvent le cul tous les jours. Mon père, il a pas pris de vacances depuis des années pour rien avoir au final. Donc il n'y a pas de reconnaissance. Macron, il a parlé trop tard. Donc tout ce qu'il mérite, c'est ça.
Sonia, elle, a la voix cassée à force de haranguer ses collègues avec son mégaphone. Avec son mari, ils galèrent tous les mois, alors ils iront jusqu'au bout.
On gagne trop pour avoir des aides et pas assez pour vivre. Donc il faut qu'il m'explique comment on va faire. Ça va devenir le bordel. Donc je ne lâcherai pas. Je travaille à 70 km donc, de chez moi, donc tous les jours. L'essence qu'augmente et ainsi de suite, on s'en sort plus, donc stop. Et mon mari vient de perdre son taf, il est au chômage là, donc super, on vient d'acheter, tout va bien. Donc je lâcherai pas, stop.
Et à la tombée de la nuit, les canons à eau sont entrés en action pour disperser la foule. La circulation a repris sur les Champs-Élysées à partir de 17h.
157 personnes ont été interpellées pour l'instant en Île-de-France contre 500 la semaine dernière. 101 sont actuellement en garde à vue à Paris. Des manifestations organisées également à Bordeaux avec 4500 personnes présentes. 14 individus ont été arrêtés en possession de matraques ou de battes de baseball. Plus de 3000 manifestations également à Marseille où les gilets jaunes ont été rejoints par les étudiants. 1200 gilets jaunes à Nantes où un policier a été blessé. Et puis à Toulouse, entre 3 et 4 000 manifestants se sont rassemblés. Des barricades ont été montées, mais rapidement déblayées par les gendarmes mobiles. Une manifestation qui a donné lieu à quelques affrontements, Alain Gastal, mais qui a permis également une certaine convergence des luttes.
Et oui, il y avait au départ 600 cégétistes hein, d'un côté du boulevard, autant de gilets jaunes de l'autre. Les deux cortèges se sont rejoints et visiblement, les petits ruisseaux ont fait les grandes rivières, puisque le cortège a gonflé au moment de la dispersion. Il y avait près de 3 à 4 000 manifestants du côté du Monument aux morts. Du côté de la CGT, on était satisfait de cette convergence des luttes. C'était beaucoup plus partagé hein. Du côté des gilets jaunes où certains n'appréciaient pas la présence des militants cégétistes. Cela dit, après la dispersion, chacun, j'allais dire, est rentré chez lui puisque les cégétistes ont quitté le cortège, tandis que plusieurs centaines de gilets jaunes ont eux commencé à harceler les forces de l'ordre à coups de jets de pierre et de bouteilles d'en verre contre des lacrymos et des canons en eau pour la première fois à Toulouse. Une bonne heure de bataille rangée du côté du Monument aux morts. Ensuite, presque autant à quelques centaines de mètres là du côté du métro Jean Jaurès. Ensuite, les forces de l'ordre ont détruit les quelques barricades qui commençaient à s'ériger du côté des boulevards. Les bagarres ont continué mais sous forme de petits groupes hein, qui ont joué au chat et à la souris avec les forces de l'ordre du côté de la gare et en haut de Toulouse vers Joliment. Il y a eu quelques heurts, il y a eu également quelques blessés, une quinzaine d'arrestations. On n'a pas encore le bilan définitif, mais des incidents qui n'ont rien à voir en tout cas en ampleur avec ceux qu'on a connus il y a une semaine et également beaucoup moins de destruction signalés, en tout cas à cette heure-ci, dans la ville de Toulouse.
Alain Gastal, depuis la Ville Rose pour France Culture, un mouvement en phase de conclusion, estime aujourd'hui François Hollande. Pour l'ancien président de la République, ce mouvement doit trouver son dénouement. Une mobilisation, vous l'avez compris, marquée par une forte baisse aujourd'hui. Pour le politologue et chercheur associé à l'Institut de Recherche Économique et Sociale Jean-Marie Pernaud, cette faible mobilisation peut s'expliquer de plusieurs manières.
C'est presque une logique dans tous les mouvements sociaux, hein, lorsque ça dure, sauf événements nouveaux qui les relancent ou qui élargissent la mobilisation, il y a une certaine tendance à l'usure. Il est probable que ce mouvement n'y échappe pas, d'autant que, comme il n'a pas de pilotage coordonné, il n'y a pas d'instance centrale pour dire « bon, bah, écoutez, voilà, on continue ou on s'arrête, ou etc. » Le deuxième facteur, c'est sans doute que la transformation de ces journées en état d'urgence non déclaré, avec des déploiements policiers tout à fait considérable, et pu dissuader un certain nombre de gens de se joindre, peut-être pas au noyau dur, hein, mais au moins ceux qui étaient aux franges ou sympathisants ou mobilisables de temps à autre, peut-être que un tel déploiement de force les a dissuadés. Il y a une troisième hypothèse qui serait que les réponses du président de la République aient pu apaiser un certain nombre de mécontentements. Je ne crois pas beaucoup à celle-ci. Parce qu'au fil de la semaine, déjà les premières réactions des gilets jaunes mobilisés ne montraient pas une conviction très forte, mais je pense qu'au fil de la semaine et du manque de précision d'un certain nombre d'annonces, il est assez peu probable que ça ait apporté quelques satisfactions susceptibles de dégonfler la mobilisation. Mais enfin, il faut être prudent, on ne sait pas encore comment les choses vont évoluer. Il se peut qu'il y ait une relance, il se peut que cette usure continue. Mais je pense qu'en tout état de cause, il faudra du temps pour que les choses redeviennent, j'allais dire normal, mais qu'est-ce que l'état normal dans une telle situation après un tel mouvement ?
Jean-Marie Pernaud, politologue et chercheur à l'Institut de Recherche Économique et Sociale, a noté également qu'à Strasbourg, le nombre de manifestants a diminué de moitié. Les Gilets jaunes y ont observé une minute de silence pour les victimes de l'attentat du marché de Noël. Et on vient de l'apprendre, la garde à vue des parents de Chérif Chekat, principal suspect dans l'attentat de Strasbourg, a été levée. Un des frères de ce suspect est également sorti de garde à vue. Il reste donc quatre proches de Chérif Chekat, toujours entendus par la police. 9500 migrants sont arrivés légalement en Italie entre juin et novembre dernier, contre 57 000 personnes sur la même période l'an dernier. Un chiffre divisé par 6 depuis l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir il y a 6 mois. Le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, a fermé les ports aux navires secourant les migrants en Méditerranée. Une mesure qui, à terme, devrait favoriser les entrées clandestines, selon les experts. Jérusalem-Ouest est bien la capitale d'Israël. Déclaration du Premier ministre australien aujourd'hui. Une annonce jugé irresponsable par un haut responsable palestinien. L'Australie qui marque sa différence toutefois avec les États-Unis et le Brésil, Claude Guibal, puisque l'ambassade australienne déménagera seulement en cas d'accord de paix signé.
Cela fait plusieurs mois qu'il en parlait, mais le premier ministre australien Scott Morrison avait plus ou moins reculé devant le tollé provoqué alors en Australie par son intention d'emboîter le pas aux États-Unis en suivant l'exemple de Donald Trump il y a un an. Au bout du compte, l'Australie annonce certes reconnaître Jérusalem-Ouest comme capitale d'Israël, Jérusalem-Ouest où se trouve la Knesset, le Parlement israélien, mais tout en disant vouloir poursuivre le processus d'une solution à deux États avec Jérusalem-Est comme capitale d'un État palestinien. Scott Morrison a par ailleurs précisé qu'il n'y aurait pas de déplacement de l'ambassade australienne à Jérusalem avant que le statut définitif de la ville ne soit précisé. Autant dire, pas pour tout de suite. En fait, Scott Morrison semble avoir pris cette décision symbolique, surtout à des fins de politique intérieure. Il s'apprête en effet à affronter une élection partielle compliquée où le soutien des chrétiens conservateurs et de la communauté juive pourrait être déterminant. Un électorat qu'il faut donc séduire.
Claude Guibal pour France Culture. Et à l'instant, Israël s'est félicité de la décision australienne et salue un pas dans la bonne direction. C'est un jour sacré qui entrera dans l'histoire, annonce du président ukrainien cet après-midi. Petro Poroshenko salue la création d'un concile d'ecclésiastiques orthodoxes en Ukraine, un schisme créé qui crée une église indépendante de la tutelle religieuse de Moscou. Pour le président, ce jour marque l'indépendance définitive de l'Ukraine vis-à-vis de la Russie. Nouveau départ dans l'administration Trump. Le ministre de l'Intérieur, Ryan Zinke, chargé des questions environnementales et des parcs nationaux, quitte son poste à la fin de l'année. Annonce du président américain sur Twitter aujourd'hui. Donald Trump n'a pas donné de raison à cette nouvelle défection. Ryan Zinke a été mis en cause à plusieurs reprises pour avoir utilisé de l'argent fédéral à des fins privées. L'Eure-et-Loire est le dernier département en vigilance orange pour neige et verglas, un phénomène qui devrait prendre en début de soirée. Le temps de ce dimanche sera encore perturbé, mais globalement moins froid. Demain matin, la pluie va s'étirer du sud-ouest au massif central. Dans le reste du pays, le ciel restera couvert, mais les précipitations vont faiblir. Vers la mi-journée, un passage pluvieux parfois accompagné d'orages et de fortes rafales de vent gagnera la Bretagne.